Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Le gouvernorat de cette province dénonce le renfort des troupes rwandaises et ougandaises aux rebelles du M23. La même source précise que les éléments du M23 seraient dotés de nouveaux matériels et équipements tels des nouvelles Jeep et des radios Motorola ainsi que des nouvelles troupes fraîches. Comment analyser cette situation au moment où des efforts diplomatiques sont entrepris par les pays de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour résoudre cette crise? Nous recevons comme invité Louis-Ernest Kiaviro, porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, alors que précédemment nous vous avons annoncé le gouverneur Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, il est empêché. Monsieur Kiaviro, bonsoir. Louis-Ernest Kiaviro, vous nous suivez, bonsoir.
Bonsoir, je vous suis très bien.
Merci beaucoup. Maître Guy Kachouva, membre de l'opposition et secrétaire national du MLC. Maître Kachouva, bonsoir. Maître Kachouva? Voilà, il va certainement nous rejoindre. Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Maître Boileau Kaboula Banza Matata, Ali Kassi au Katanga, le gouvernement doit s'engager militairement en améliorant les conditions de nos vaillants combattants, les FRDC. La condamnation du Rwanda par les grandes puissances n'est qu'une pure et simple distraction pour pouvoir donner du temps aux M23 et alliés afin de s'organiser. Amici, depuis le Kansas aux États-Unis, pourquoi le gouvernement n'avait-il pas soumis le problème avec le Rwanda au niveau de l'Union africaine? Tout le monde sait que la CIRGL est une distraction pure et simple du fait de l'implication de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi dans la guerre à l'Est. Si le gouvernement travaille pour le Congo, il devrait arrêter avec cette histoire de CIRGL. Nous voulons que le problème soit traité au niveau de la SADC, de l'Union africaine et de l'ONU. Merci de votre attention et surtout de votre fidélité.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, Ernest Kiaviro, dénonce le renfort des troupes rwandaises et ougandaises aux côtés des rebelles du M23 au pied des collines de Mbuzi, Unyoni et Ntamugenga dans le groupement de Bweza en territoire de Rutshuru. Julien Nyamwini revient sur les détails.
De nouvelles incursions rwando-ougandaises en renfort aux rebelles du M23 sont signalées depuis le début de cette semaine dans le territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources concordantes, ces militaires étrangers seraient dotés de nouveaux matériels et équipements tels de nouvelles Jeep et des radios Motorola. Les sources dans la région précisent que les troupes ougandaises entreraient par le poste frontalier de Bunagana, tandis que celles du Rwanda seraient actuellement concentrées au pied des collines de Mbuzi, Runyoni et Ntamugenga dans le groupement de Bweza en territoire de Rutshuru. Des voix s'élèvent désormais pour dénoncer ce que certains qualifient de menaces graves contre les efforts diplomatiques déjà entrepris pour résorber la crise. Pour Ernest Kiaviro, porte-parole du gouverneur de province du Nord Kivu, une forte infiltration des forces rwandaises est constatée avec l'attaque de la localité des Tongo. C'est pas tout, il signale aussi du côté de M23 l'acquisition de nouveaux équipements et de nouvelles troupes. Cette incursion est dénoncée par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu au moment où les efforts diplomatiques sont en cours, notamment avec la tenue du sommet de Kampala ainsi que des assises de Goma qui ont réuni les chefs d'état-major généraux de pays membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac.
Merci Julien Nyamwini. Louis-Ernest Kiaviro, je rappelle que vous êtes porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu. Quels sont les éléments dont vous disposez qui prouvent ce renfort du Rwanda et de l'Ouganda au M23?
Écoutez, d'abord, il faudrait que nous puissions placer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que nous sommes à un moment où les efforts diplomatiques importants sont en train d'être menés ici même à Goma. Au moment où nous vous parlons, les ministres de la Défense de la région sont à réunion ici à Goma. Et avant cette réunion, il y a eu la réunion des chefs d'état-major, généraux des 7 armées concernées, et avant ces derniers, il y a eu aussi celle des experts en sécurité. Donc, des efforts sont en train d'être menés par la région, et nous le pensons dans un esprit de chercher la paix. C'est pour cela que des informations qui sont contraires à cette dynamique, quand elles commencent à venir et à abonder, il est du devoir, comme on dit à Lingala, ce que Monino qui gagne à Makashi, il est du devoir de le dire pour que on puisse résorber ces questions une fois pour toutes. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est heureux de dire que une des résolutions qui semble être en train de venir, c'est que nous puissions avoir à redynamiser le mécanisme conjoint de vérification. De quels éléments dispose-t-on? Par rapport au Rwanda, ce n'est pas nous qui avons été les premiers à parler de la présence du Rwanda. Et nous avons, jusque-là, jusque maintenant, affirmé par rapport au Rwanda ce qui s'est passé. Et par rapport à l'Ouganda, nous disons que nous recevons les informations. C'est-à-dire que les allégations par rapport à la présence de l'Ouganda sont en train de venir en abondance, tandis que celles de la présence du Rwanda sont avérées. Quant aux dernières informations que nous avons par rapport à la présence de nouveaux éléments rwandais, où est-ce que nous les avons? Mais ce sont les prisonniers, ce sont les jeunes qui fouillent les exactions et les recrutements d'enfants qui viennent pour dire nous étions telle part, on a vu venir tel. C'est qui? Ce sont les villageois, ce sont les personnes qui sont avec ces personnes, qui nous donnent des informations, et pas seulement nous. Elles donnent des informations, par exemple, vous avez lu la société civile, avec des détails dont certains ont été repris par votre... Et donc, nous, ce que nous disons, nous n'avons pas à accuser l'État ougandais. Nous disons qu'il y a des informations. Mais pour ce qui est du Rwanda, les faits sont avérés, et ils ont été prouvés pas par nous, mais d'abord par les Nations Unies. Et la réponse du Rwanda, vous avez bien suivi, n'a pas été convaincante, selon le président en exercice, encore une fois, du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ce que nous voulons, nous, en tant que gestionnaires de la province du Nord Kivu, c'est que enfin nos concitoyens puissent avoir la paix. C'est que enfin nos concitoyens puissent dormir comme les autres. Là, un Nord Kivucien sur 5 est en errance. En ce moment précis, nos espoirs sont entre les mains de ceux qui sont en train de se réunir au moment où vous parlez à l'hôtel Ioussi. Et quand nous apprenons que ceux-ci se réunissent et d'autres sont en train de traverser, nous devons élever la voix pour dire que non, allons dans la même direction. S'il y a des choses, ces choses-là, il faut que des mécanismes pour les vérifier et pour permettre à ce que tous les pays qui se sont déplacés ne se soient pas déplacés pour rien. Donc c'est un effort cette dénonciation est un effort qui se joint aux efforts diplomatiques.
Lui, Ernest Kaviro, il y a cette réaction qui vient de Goma au Nord Kivu pour vous.
Sabin, Abel, Jean, de Goma de la province du Nord Kivu. Pourquoi Kampala doit recevoir les assises pour la paix au Nord Kivu et continuer à appuyer les mythes? Quelle hypocrisie diplomatique et quelle solution attendons-nous?
Un peu comme dit un proverbe africain, vous envoyez quelqu'un sur un arbre et ensuite vous vous moquez de son derrière.
Attention. Je voudrais que... Parce que quand il y a des efforts diplomatiques, même quand il y a la guerre, quand les gens sont en train de mourir, il y a toujours des efforts diplomatiques. Et ces efforts sont toujours encouragés.
Oui, mais qui ne semble rien apporter sur terrain, lui, qui a un Afrique.
Non. On ne peut pas dire que ce qui s'est passé à Kampala, en tout cas à mon avis, était nul. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé à Kampala, par rapport à l'africanité de la chose, c'est que nous nous sommes quand même pris en charge, nous, de la région. Et avant de voir les fruits, quand l'arbre est encore en train d'être planté, on ne peut pas dire que c'est un arbre, que les plantes sont vénéneuses ou que les fruits seront sucrés. Donnons à l'arbre la chance de continuer. Mais ce que je peux dire par rapport aux assises de Kampala, par moi, Jean-Louis Kaviro, comme individu, c'est que ça pouvait vraiment nous aider d'avoir un raccourci en renforçant le mandat de la MONUSCO et en ouvrant cette MONUSCO aux contributeurs africains et en renforçant son mandat afin qu'il puisse frapper les forces négatives.
Merci à lui, Ernest Kaviro. Maître Guy Kachouva, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir, monsieur le journaliste, je suis en ligne.
Vous êtes membre de l'opposition et secrétaire national du MLC. Comment vous analysez cette situation?
D'abord, je voudrais remercier la Radio Capi de m'offrir cette opportunité pour exprimer le point de vue de membres de l'opposition. Et ici, je vais d'abord dire une chose. Je regrette que le gouverneur qui était annoncé comme invité de cette émission ne soit pas là. Et là, je suis en train de parler avec un de ses délégués.
Il s'est excusé.
Que cela ne tienne. Mais je sens déjà que le délégué n'est pas aussi convaincu de ce qu'il dit. Il dit, nous n'affirmons rien, nous donnons des informations. C'est comme s'ils ne sont pas vraiment suffisamment outillés pour déclarer que l'Ouganda est derrière le M23 au même titre que le Rwanda. Je pense que vous devez vous rappeler d'une chose, c'est que l'opposition politique, à travers le groupe parlementaire des députés du Nord Kivu, avait à son temps tiré la sonnette d'alarme pour dire que le mouvement M23 est en train de bénéficier du soutien militaire du Rwanda, et il y a de cela plus de 2 mois. C'est le même gouverneur Julien Paluku qui est passé sur les ondes de la radio Capi pour démentir cela. Et aujourd'hui, son porte-parole dit il n'y a plus de doute, c'est le Rwanda qui soutient, n'est-ce pas, le mouvement M23. Voilà encore il y a peu, nous avons dit, nous opposition, que l'Ouganda est derrière le M23. Le même gouverneur, avec son porte-parole, ont soutenu le contraire. Aujourd'hui, ils reviennent à la raison. Je suis en train de me demander, l'argent qu'ils dépensent pour la sécurité de la province, ça sert à quoi s'ils ne peuvent pas être informés au même titre que l'opposition qui utilise des moyens rudimentaires pour obtenir l'information? Regardez, ils vous disent ce sont les villageois, les paysans qui nous informent. Alors que le gouverneur est le responsable numéro un de la province. Je pense que le problème qui est là, c'est quoi? C'est que le gouverneur Julien Paluku est tombé dans un piège. Il roule pour des forces obscures qu'il ne contrôle pas. Il doit s'assurer d'une chose, c'est qu'il ne travaille plus pour le peuple du Nord Kivu. Il travaille pour des intérêts partisans, ceux qui tirent les ficelles à distance à travers cette fameuse guerre de M23. S'il était encouragé fils du Nord Kivu, il allait démissionner. Ce qu'il fait ne profite pas au Kivusien.
Maître Dikachova, vous avez toujours la parole. Je vous prie de faire attention à certaines affirmations, à certaines allégations qu'il est difficile de prouver sur des antennes et dans une émission comme celle-ci, et surtout que le gouverneur n'est pas là lui-même pour se défendre. Donc je vous prie qu'on n'axe pas le débat sur les individus, mais plutôt sur les faits et les solutions qu'on peut y apporter. Je vous en prie, vous avez la parole.
Mais si vous voulez que je vous dise une chose sur la solution, tout ce qui se passe là comme conférence, je ne pense pas que cela va apporter une solution durable. Au contraire, cela va contribuer à endurcir encore les dissensions entre les différentes populations du Nord Kivu. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est quoi, je pense? Nous pensons, nous, non opposition, nous pensons que le pouvoir à Kinshasa est en train de prouver ses limites. Il est temps qu'on mette la société civile au premier plan de toute négociation. Je pense que si on se parle sincèrement, on nous parle d'un certain accord du 23 mars qui n'a jamais été rendu public. Si l'on y met les acteurs de la société civile pour négocier avec les forces de M23, pour négocier avec le Rwanda ou du moins l'Ouganda, je pense que la population sera informée des enjeux de cette guerre. Nous avons l'impression que cette guerre n'est qu'une mascarade. Parce que nous ne comprenons absolument rien. Nous sommes ici en République démocratique du Congo. Nous avons des populations Tutsi que nous avons acceptées comme nos frères. Ils vivent avec nous en paix. Je ne comprends pas pourquoi le problème va encore se reposer en termes de M23 après qu'on ait mis fin au CNDP. Et donc, le gouvernement de Kinshasa est en train de prouver ses limites face à ces problèmes, à cet enjeu. Il est temps qu'il y associe d'autres partenaires pour que finalement on trouve une solution qui va ramener une paix durable pour tous et pour tous les pays.
Voilà. Alors, quelques auditeurs pour vous, Maître Guy Kachouva, jusqu'à Rwasso qui est de Bukavu au sud Kivu. On savait anticipativement que les conclusions de la conférence de la CIRGL ne pouvaient jamais résorber la situation, étant donné que le Rwanda et l'Ouganda sont caractérisés par une politique d'hypocrisie et paraissent comme des véritables éléments perturbateurs de la situation à l'est de la RDC. Au lieu de se plaindre, de se mettre dans des jérémiades à maintes reprises, la RDC a tout intérêt à structurer son armée et qui sera capable de défendre l'intégrité territoriale. Célestin Raoul Bamongoyo de Kisangani en province orientale, les autorités congolaises qui croient au succès diplomatique issu de la conférence de Kampala doivent être désillusionnées avec ce nouveau soutien qui intervient au lendemain de la conférence. À mon avis, les autorités congolaises doivent des éclaircissements au peuple congolais autour des accords signés avec ces différents pays agresseurs. Maître Guy Kachouva, en demandant que la société civile soit associée à ces négociations, que ce soit la société civile qui soit à l'avant-plan négociant avec les M23 ainsi que les différents pays, vous pensez vraiment que la solution viendrait de là, du moment que l'on sait que la société civile n'a pas le vrai pouvoir?
Non, le problème ce n'est pas d'avoir le vrai pouvoir, parce que les tenants du vrai pouvoir sont en train de prouver leurs limites. Je pense que la société civile a une préoccupation. C'est d'abord de connaître les contours de cette guerre. Nous n'avons pas suffisamment d'informations sur les motifs de cette guerre que nous sommes en train de subir injustement. Voilà, puisque le pouvoir en place est en train de créer un grand secret autour des motifs de la guerre, qu'est-ce que nous devons faire? Je pense que ce n'est pas l'heure de former une armée républicaine capable d'assurer la sécurité. Non, ce n'est pas le moment. Le président de la République actuelle, M. Joseph Kabila, nous l'a promis depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Alors, je constate qu'il ne peut pas former une armée républicaine capable d'assurer la sécurité. Surtout qu'il savait très bien que l'Est était brûlant. Il devait s'y atteler depuis longtemps. Ce n'est pas le moment de parler de la formation d'une armée républicaine. Peut-être s'il a encore quelques génies créateurs autour de lui, il peut s'imaginer quelques amis de la RDC qui peuvent nous épauler avec des forces militaires, notamment l'Angola, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe si vous voulez, pour qu'on puisse constituer un tampon, empêcher alors au M23 de continuer ses velléités et alors de dire en réalité qu'est-ce qu'ils veulent. Merci. Parce que si nous ne savons pas compter sur notre propre armée, nous pouvons compter sur des relations avec d'autres États qui ont une armée réellement républicaine. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se mettre à former une armée, sinon le M23 va avancer.
Merci. Merci Maître Guy Kachouva. Je vous retrouve dans le second tour de table. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, c'est à plusieurs reprises qu'on vous a associé à ces débats sur la situation à l'est de la RDC. Comment vous analysez une fois de plus cette nouvelle donne?
Que l'on nous dise qu'il y a le Rwanda qui équipe et qui arme le M23, cela ne nous surprend nullement. Ce qui est vrai, c'est que l'État rwandais veut rester maître du jeu dans le Kivu et se propose d'élargir sa zone d'influence au-delà de ses frontières. Cela a toujours été sa politique quand on sait que le Kivu est une région très riche en minerais et qui a aussi des vastes terres pouvant accueillir le surplus de population rwandaise. Alors là, nous sommes très intéressés par l'attitude de Kinshasa, parce que là, c'est aussi une question de fierté, mais aussi une question de souveraineté. Et nous savons que de par l'histoire, le Rwanda a acquis sa suprématie dans cette région depuis que l'AFDL constituait en grande partie de ses propres troupes. Donc, des troupes rwandaises avaient réussi à renverser le régime Mobutu en 1996. Et cette suprématie a été accrue lorsque les mêmes troupes rwandaises ont réussi à défaire l'armée ougandaise dans ce que l'on peut appeler la guerre de Kisangani, donc la guerre des six jours. Et ils ont donc eu un ascendant à la fois psychologique et stratégique dans la région. Et donc, aujourd'hui, la RDC, dont le terrain sert au Rwandais d'expérimentation, doit certainement, et là je parle bien de politique, doivent communiquer avec les, les populations congolaises pour dire dans quelle mesure les politiques congolaises ont pris cette affaire en main et comment ils entendent régler. Il faut également reconnaître que le Rwanda a été fortement militarisé, équipé, formé par les Américains et les Britanniques. Et c'est là, depuis, que le Fonds patriotique rwandais a pris le pouvoir en 1994. Ce qui fait que l'influence du Rwanda dans le Kivu est devenue aujourd'hui un chapitre important de leur propre politique de voisinage avec la RDC. Et le Rwanda considère la RDC du reste comme un géant au pied d'argile. Et donc, il faut qu'au niveau des politiques congolaises, qu'on réussisse à changer les donnes, à renverser cette donne. Mais je crois savoir que au niveau du Rwanda, on est très calculateur, parce que ça fait quelques mois que y a des programmes de formation de quelques brigades de l'armée congolaise, notamment par les Américains et les Belges. Et donc, on attendait beaucoup de ces brigades. Et c'est à ce moment précis que le Rwanda choisit, évidemment, de lancer une nouvelle guerre. Et beaucoup d'observateurs ont été assez attentifs de voir quels seraient les comportements des nouvelles brigades formées, étant donné que ce sont les mêmes Américains qui ont formé l'armée rwandaise, mais ce sont également les mêmes qui ont formé, notamment, les brigades qu'on appelle modernes et dont on attendait beaucoup dans la guerre actuelle contre le M23. Malheureusement, il est très difficile aujourd'hui d'évaluer la plus-value apportée par ces nouvelles brigades dans la reconquête du territoire conquis par le M23. Et donc, du coup, aujourd'hui, il est tout à fait très difficile pour nous de comprendre un tout petit peu comment la réforme de l'armée qui avait été annoncée et dans laquelle on a injecté plusieurs millions de dollars, qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat. Et là, véritablement, nous sommes très inquiets parce que cette réforme de l'armée devait déboucher sur la formation d'une armée réellement républicaine, une armée qui doit être là pour non seulement la sécurité intérieure, mais aussi pour la défense extérieure du pays. Et il me semble là que chaque fois que le problème de défense extérieure se pose, eh bien l'armée n'est pas en mesure de défendre le territoire de l'extérieur. Et ça, c'est véritablement un souci majeur. On ne peut pas aujourd'hui, pour un État souverain, chaque fois que vous êtes menacé de l'extérieur, compter sur une armée étrangère. Non. La souveraineté, elle est aussi définie par la capacité que chaque État développe de sécuriser ses frontières, de sécuriser son territoire. Ou bien on n'est plus un État, mais notre État, si nous voulons bien le construire et le définir, il doit avoir les instruments de souveraineté. Et l'armée en est une.
Professeur, vous gardez la parole, le temps de prendre cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Je suis Gratien Moshikwe, j'habite la commune de Lemba dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement de la République ne doit pas avoir honte et peur de dire au peuple la vérité et se montrer plus offensif. L'armée doit se sentir responsable de son action et non cacher ses faiblesses derrière des arguments politiques. La communauté internationale doit se lever comme le fait avec la Syrie et se saisir des responsables rwandais et ougandais impliqués.
Réaction, professeur. Brièvement, je vous en prie. Voilà, nous venons de perdre le professeur Félicien Kabamba. Lui, Ernest Kiaviro, vous avez également suivi cette réaction. Le gouvernement de la République ne doit pas avoir honte et peur de dire la vérité au peuple. On a plusieurs fois entendu cette phrase. Et quel sens ça pourrait avoir d'après vous?
Non, moi je pense que celui qui vient de parler, en parlant des faiblesses gouvernement de la République et en parlant de la nécessité de dire la vérité au peuple, n'a pas tort. Mais le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est l'intervention extérieure. Mais avant de parler de l'intervention extérieure, bien entendu, nous devons regarder notre part, comment nous nous comportons pendant la guerre. Comment nous comportons-nous quand il n'y a pas la guerre? Comment avons-nous préparé? Bien sûr qu'il y a eu des faiblesses. Mais ce que je dis aux Congolais qui nous suivent en ce moment, c'est que quand nous parlons de ces choses à la radio, ce n'est pas à ce moment-là, en pleine mobilisation pour la guerre, que nous allons maintenant nous spécialiser à dénoncer les faiblesses de notre camp et de notre chef et de notre armée. L'armée américaine en Afghanistan a des faiblesses terribles, mais ce n'est pas, ça ne peut pas être un sujet que les gens mettent en exergue quand il s'agit d'engager les combats en Irak et en Afghanistan. Les armées ont toujours des faiblesses, tout être humain a une faiblesse, ce n'est pas quand le voleur est à la maison qu'il faut apprendre au papa et à ses faiblesses. Ce n'est pas vraiment le moment où il faut d'abord chasser le voleur. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, ce n'est pas pendant un moment pareil qu'on peut venir faire de la lutte politicienne sur un sujet aussi tabou que la terre de nos ancêtres. Nos amis de l'opposition, qui sont en train de dire des choses dans le sens de la continuation de la campagne électorale, se trompent d'époque. Maintenant, il y a une partie du territoire national qui est occupée par des forces qui sont soutenues par l'étranger. La patrie est en danger. Je suis surpris que les langages ne changent pas, que c'est toujours la lutte comme si pour ridiculiser les gouverneurs, ridiculiser les chefs de l'État, montrer que nous ne faisons rien, non.
Lui, Ernest Cavero.
Non, vraiment, c'est grave.
Lui, Ernest Cavero. Excusez-moi, j'ai fait la mise au point tout à l'heure lorsque Maître Guy Kachouva a parlé. Je pense que nous devons ne tomber pas dans la même erreur. Passons ce chapitre-là.
Non.
Passons à l'essentiel, je vous en prie. Lui, RDC Kavir aussi, on devrait tous parler au même moment, on ne se comprendrait pas. Alors je vous pose une question précise, d'après plusieurs réactions des auditeurs que vous avez suivis ici, ainsi que les réactions des autres interlocuteurs, peut-on dire, lui, RDC Kavir, que la RDC est au pied du mur? Lui, Ernest Kaviro.
L'évaluation de l'accord du 23 mars, vous ouvrez le site
voilà.
De la province du Nord qui vous.
Lui,
vous aurez l'évaluation et les textes de l'accord du 23 mars qui
n'ont jamais été sérieux. Lui, Ernest Kaviro.
On parle.
Est-ce que vous me suivez? Voilà, merci.
Oui,
je sens que vous me suivez. Je vous demandais une question, je vous posais une question précise. Peut-on dire au regard de tout ce qui se passe sur terrain que la RDC est au pied du mur?
Non, pas du tout. Pas du tout. La RDC a le vent en poupe. Les petites faiblesses qu'il y a ne peuvent pas nous faire croire que nous sommes vraiment au pied du mur. Non, nous ne sommes pas au pied du mur. Au contraire, c'est nous qui avons maintenant l'initiative. Combien de pays viennent de couper l'aide au Rwanda dans les 3 semaines qui viennent de s'écouler ici? Le fait qu'on vienne se réunir ici chez nous, à Goma, c'est qu'on a le souci de nous rassurer. On ne peut pas rassurer quelqu'un qui est à des bandades. Et puis, les rapports de force dans la région, si vous regardez très bien, sont en train de tourner en notre faveur. Mais c'est maintenant à nous, je le dis très clairement, c'est maintenant à nous de nous montrer à la hauteur et de saisir la balle au bon. Et diminuer nos faiblesses et renforcer nos forces. Ça, c'est ce que je peux dire à l'instant pour suivre cette question. Quant au recrutement, dire qu'il ne faut pas recruter maintenant, mais ça, c'est grave. Un pays qui est entouré de 7 voisins qui ont des armées, qui sont modernisées, un pays qui a des richesses, un pays qui est convoité, à qui on fera la guerre même pour l'eau et l'air, vous doit ne pas recruter, non. Et le fait que nous sommes en guerre, ça, c'est que les gens sont engagés, il faut les remplacer, il faut les renforcer. Le recrutement est une bonne chose et l'engouement que ça donne montre que notre jeunesse est patriotique.
Alors, lui,
aujourd'hui, non, je suis en train de m'étonner quand on dit que nous nous sommes contredits. Écoutez, les informations sur la présence du Rwanda ont une véracité avec confirmation internationale, avons-nous dit. Et les informations par rapport à la présence ougandaise sont encore en train d'être vérifiées. Et nous les disons comme ça, nous n'allons pas inventer les choses. Nous ne sommes pas comme certains qui voient quelqu'un passer et qui passe directement à une confirmation étatique. Nous disons que nous avons ces informations et que nous sommes en train de les vérifier.
Merci, lui, Ernest Kaviro. Maître Guy Kachouva, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Mbujima et au Kassai Oriental pour vous.
La mère Mwamba de Mbujima et au Kassai Oriental. La diplomatie a échoué. Nous n'avons pas une diplomatie forte et c'est dommage. Même l'ONU a échoué sa mission de stabilisation à RDC. Pour moi, il faut transformer la Monusco en une mission d'imposition de la paix et lui doter de tous les moyens possibles pour repousser les agresseurs jusqu'au Rwanda et l'Ouganda. Voter à l'ONU une résolution ferme qui interdit aux Occidentaux et multinationales qui entretiennent et financent la guerre dans notre pays afin de voler nos richesses et monter des mécanismes pour suivre l'exécution de cette résolution.
Réaction, Maître Guy Kachova.
Oui, ben merci. Ben je pense que cet auditeur n'a pas du tout tort. C'est vrai qu'il faudra, d'ailleurs je pense que ça a été la position de la RDC, de transformer la mission des Nations Unies au Congo pour en faire une force tampon d'imposition de la paix. Et là, il faut faire appel au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Mais je pense que la RDC aura perdu de toute sa force si elle fait marche arrière par rapport à cette exigence. Nous devons continuer à exiger que ce soit la MONUC qui se déploie tout au long de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi je dis ça? Je dis ceci parce que la force de la MONUSCO a l'avantage d'être une force neutre qui n'a pas de penchant ni pour le Rwanda ni pour la RDC. Et dans sa constitution, dans sa configuration, vous trouvez là-dedans des nationalités de pays qui ne sont pas directement ou indirectement impliqués dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Et donc, si nous cherchons une force neutre, nous n'allons pas la chercher très loin, parce qu'elle est déjà avec nous. Il suffit simplement de changer le mandat de la MONUSCO pour lui doter de moyens suffisants pour faire face à sa nouvelle mission. Les problèmes à l'interne dont parlait tout à l'heure le porte-parole du gouverneur, c'est que, en fait, en réalité, le président de la République avait décrété une mobilisation générale. Personnellement, je n'ai pas compris ce que cela signifie. Si il n'y a pas un couloir de dialogue entre les tenants du pouvoir et les autres forces vives de la nation, notamment l'opposition et la société civile, vous savez, cette affaire a assez trop duré. Mais demandez-vous combien de fois le pouvoir a eu besoin d'entendre un autre son de cloche que sa propre politique, qui est d'ailleurs, du reste, je l'ai dit tout à l'heure, en train de prouver ses limites. Je pense que le gouvernement doit se remettre en cause et prendre en considération les points de vue des autres forces sociales en présence et que la guerre à l'Est, le front qui nous est imposé, soit non pas l'affaire du gouvernement, mais l'affaire de tous les peuples congolais. En fait, on voudrait en faire une affaire du gouvernement, une affaire d'État. Non, ce n'est pas une affaire du gouvernement, ça doit normalement en principe être l'affaire de toute la nation. Mais en fait, nous voyons une ouverture timide de la part du gouvernement. C'est comme si le gouvernement de Kinshasa a des choses à se reprocher. Comme si il ne faut pas que tout le monde sache ce qu'on est en train de faire. Il faut un peu se créer là-dessus. Non, je crois qu'on doit s'ouvrir. On ne doit pas avoir honte de se dire des vérités en face. Lorsqu'on n'est pas à même de résoudre un problème, on peut demander le conseil des autres. Et je pense qu'à sur ce point, le président de la République peut bien avoir la volonté de s'ouvrir, mais son entourage, je pense qu'il est en train encore de jouer contre cette option. Et là, il faudra qu'il prenne les choses en main. C'est ça même le problème de leadership qui se pose. Il faut que le président de la République sache, il faut canaliser toutes les énergies de la RDC pour pouvoir affronter un problème national.
Maître...
Donc, pardon?
Maître Kachova, excusez-moi, juste une précision. Il y a une réaction que j'ai lue dans le sommaire de cette émission. Elle vient, c'est celle d'Ami ici qui nous écrit depuis le Kansas aux États-Unis. Lui propose par exemple que le gouvernement arrête avec la CIRGL, mais plutôt que la RDC puisse se tourner vers la SADC, l'Union africaine et l'ONU en guise de solution.
Mais je pense que tout ça, ce sont des regroupements. Je ne pense pas qu'il faut tourner le dos à la CIRG. Je pense qu'il faut continuer à dialoguer. Mais il ne faut pas considérer que cela est une grande stratégie pour nous pour sortir de cette situation. Le vrai problème, je vous ai dit, nous sommes à la recherche des forces neutres. La MONUSCO offre cette garantie-là de neutralité. Donc il faut pas que le gouvernement congolais recule face à cette exigence.
Merci.
Et faire de la MONUSCO une force tampon.
Merci.
Là, à ce moment-là, la SADC et les autres organisations régionales peuvent venir en appoint.
Merci.
Donc je ne pense pas que ça puisse se contredire. Ce n'est pas parce qu'on a des amis à la SADC qu'on va fermer la porte à la SADC. Après tout, c'est un problème des Grands Lacs.
Merci.
Il faut continuer à dialoguer avec les acteurs du pays des Grands Lacs et continuer aussi à insister, à demander de manière persistante la transformation de la mission de la MONUSCO. C'est là notre seule garantie de la neutralité. En tout cas, en ce qui concerne la situation actuelle que nous traversons.
Merci, maître Guy Kachouva. Professeur Félicien Kabamba en parle par rapport à cette force neutre. L'Alliance pour le développement et la République de François Mwamba propose l'Africom. Selon le président de l'ADR, cette unité militaire qui combat déjà les forces négatives en province orientale, toujours ici en RDC, semble être la réponse exacte à la mise en place d'une force neutre entre le Rwanda et la RDC. François Mwamba l'a dit ce jeudi au cours d'une conférence de presse qu'il a organisée à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de sa formation politique. Ses propos ont été recueillis par Jacques-Yves Molima.
S'agissant de la mise en place d'une forme dite neutre dans l'est du pays, l'ADR défend la position recommandée par le groupe consultatif, à savoir que la neutralité de la dite force reste un impératif. Nous sommes d'avis également que notre pays doit approfondir la question de sécurisation de ses frontières orientales au niveau des relations bilatérales, cette fois, notamment avec des partenaires tels que les États-Unis, disposant d'ores et déjà en Afrique d'un mécanisme neutre de sécurité nommé AFRICOM. AFRICOM contre CONI, pourquoi pas AFRICOM contre les FDLR ou encore contre les M23, ainsi que contre toutes les autres forces négatives. AFRICOM nous semble être la réponse neutre, parfaite, précisément adaptée à la situation d'insécurité qui prévaut dans les deux provinces du Kivu.
Professeur Félicien Kabamba, pendant que tout le monde parle de cette force neutre, les propositions vont dans le sens de la MONUSCO avec un mandat revisé, mais là François Mwamba lui propose plutôt AFRICOM. Quelle est votre analyse?
Disons qu'il ne faut pas, envisager des propositions qui seront difficiles à être mises en œuvre. L'un des problèmes que rencontre la mise en œuvre d'une force qu'on peut dire neutre, c'est entre autres les moyens, la provenance de moyens qui seront mis à sa disposition. Et je ne vois pas les pays africains qui ont déjà trop de problèmes disposer de moyens militaires et de moyens financiers suffisants, à moins de faire appel évidemment à l'ONU. C'est là que la MONUSCO, qui a déjà un budget assez conséquent, à mon avis, avait déjà un avantage comparatif qui est assez élevé. Mais par contre, tout le problème, c'est jusque-là l'inefficacité. Je ne peux pas parler de l'inefficacité, mais de limites que présente cette force, parce que de temps en temps, elle nous dit que ces moyens sont assez limités. Et du coup, si déjà la MONUSCO dit que ces moyens sont limités, on se pose bien la question si les forces africaines qui vont être déployées auront des moyens conséquents, supérieurs aux moyens détenus par la MONUSCO pour faire ce travail. De toutes les façons, la RDC doit retenir une chose. Quand vous lisez bien le rapport de Global Witness, qui reprenait le propos des responsables rwandais, les responsables rwandais disaient que le Rwanda ne peut se développer si notre frontière à l'est lui est fermée. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toute fermeture, que toute absence d'influence du Rwanda sur l'espace qui lui tient va lui couper un certain nombre de moyens. Vous savez que la Banque centrale rwandaise avait publié en 2011 des chiffres assez hallucinants qui montraient que l'exploitation minière avait rapporté 60 millions de dollars américains à l'État rwandais. Et pour la première fois, il dépassait même l'exportation du thé. Le thé qui constitue évidemment la première source de devises pour le pays. Et du coup, le Rwanda a déjà intégré dans sa politique dans la région qu'en fait, avoir le contrôle de la partie kivusienne lui permettait également de faire des économies, de réaliser des rentrées en devises et donc toute tentative qui tendrait à lui couper cette politique expansionniste allait avoir des impacts sur sa propre économie. Et du coup, il s'agit là d'un problème assez récurrent contre lequel les politiques congolaises doivent devoir se préparer. Aujourd'hui, vous allez trouver des solutions, mais pour combien de temps? Il faut des solutions durables. Les forces étrangères qui viendront chez nous viendront pour une durée limitée. Mais il faut absolument que des politiques de sécurité, plus ou moins à long terme, et des politiques globales soient pensées, repensées, de sorte à doter notre pays d'une armée qui peut sécuriser cette frontière de manière durable.
Professeur, je signale en même temps qu'il nous reste moins de 6 minutes pour terminer cette émission. Il y a Aimé Chirinda de Bukavu au Sud Kivu qui dit « Je suis parmi les pessimistes qui pensent que la solution diplomatique n'aboutira pas. » Et professeur, quand on regarde le périple de Madame Clinton, secrétaire d'État américaine aux affaires étrangères à travers l'Afrique, on a senti pendant le périple que la situation de la RDC apparemment n'intéresse pas trop.
C'est bien exact, et c'est là que il faut qu'il y ait une diplomatie en direction de pays qui ont une très grande influence sur la politique internationale, notamment les États-Unis, la France et autres, pour les amener, si vous voulez, à intervenir de manière assez efficace sur la situation de l'Est du pays. Mais je crois que nous assistons quand même ces derniers temps à un changement de politique, au moins au niveau des États-Unis d'Amérique, et je crois que ça, il faut le saluer.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Louis Ernest Kaviro, vous êtes porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu. Il faut déjà conclure. La situation de l'Est, on en parle chaque jour. Quelles sont les solutions durables, d'après vous, en guise de conclusion?
Oui, je vais conclure en soulignant d'abord que, vu que le gouvernement et le chef de l'État n'ouvre pas les discussions sur cette affaire à d'autres personnalités, alors qu'il y a un groupe consultatif, alors que la plus grande manifestation a été organisée par l'Église catholique, alors que l'Église catholique veut faire une tournée internationale, je me demande si c'est vraiment dire la vérité sur ce sujet. Maintenant, voyons les solutions. Vous savez que cette crise a tellement fait souffrir la province du Nord Kivu. Je l'ai dit, un Nord Kivucien sur cinq est aujourd'hui soit déplacé de guerre, soit réfugié. Le cabinet du gouverneur s'est appesanti sur cette crise. Cette crise a de longues racines. Elle a commencé avec les premières migrations des Banyarwanda en 1937.
Est-ce qu'on peut aller aux solutions? Passons aux solutions. Il nous reste moins de 3 minutes. Allez-y aux solutions.
Mais là, pour la terminer, il faudrait que nous puissions travailler sur ces causes qui est le manque d'ouverture politique au Rwanda et le fait que la déstabilisation permanente de l'aide de la RDC continue. Aujourd'hui, à court terme, il faut absolument, pour moi, renforcer vite le mandat de la MONUSCO et l'ouvrir. Quant à la région pourra devenir maintenant renforcée parce que la région n'aura pas le temps matériel pour répondre à des urgences sur le terrain avec 1 million de déplacés et de réfugiés compris.
Merci.
Je pense aussi qu'au niveau interne, on doit renforcer nos capacités de défense et renforcer notre gouvernance.
Merci, Louis-Ernest Kaviro. Maître Guy Kachouva, membre de l'opposition, secrétaire national du MLC, quelle est votre conclusion?
Bien, moi, en conclusion, je dirais simplement que je réitère ce que j'ai dit tantôt pour dire que le gouvernement doit s'ouvrir et écouter toutes les forces vives de la nation. Lorsqu'on me parle des groupes de contact, moi je dis que c'est une ouverture timide. Kabila donne et retient la foi. Personne n'est d'accord avec la méthode du groupe de contact. Nous pensons qu'il y a mieux à faire qu'à créer des petits groupes comme ça. Il faut s'ouvrir, il faut créer un véritable dialogue de toutes les forces de la nation. Il faudra que chacun, chaque Congolais se sente concerné par cette mobilisation générale. Ça c'est d'un point de vue à ce qui concerne l'aspect interne dans la résolution de cette crise. Mais la résolution de la crise a aussi des aspects externes. J'insiste pour dire que le gouvernement ne doit pas reculer face à l'exigence de la transformation de la mission de la MONUSCO. C'est notre seule garantie de la neutralité. Merci. Lorsqu'on nous apprenons que la force qu'on voudrait constituer va impliquer les Rwanda et l'Ouganda, qui sont les agresseurs, qui soutiennent l'M23, je pense qu'il y a de la farce là-dedans.
Merci,
il faut
maître.
Qu'on retienne, on maintienne la décision, notre position, et
merci.
Transformer le mandat de la MONUSCO aussi.
Merci Maître Guy Kachouva. Professeur Félicien Kabamba, pendant que la RDC négocie, des éléments ougandais, rwandais continuent à sévir sur le territoire congolais. Dans cette optique, que devrait faire la RDC en guise de conclusion?
Oui, disons qu'il y a là des solutions diplomatiques qui ont déjà été discutées, mais il faut aussi que le pays se prépare à se doter d'une armée véritable. Il faut dire que la politique de réforme des services de sécurité n'a pas encore donné des résultats qu'on escomptait, et donc de ce point de vue, il faudra envisager des réformes en fond. Donc je crois
Il y a là un grand chantier qui s'est ouvert et il faudra que le gouvernement congolais puisse s'y prendre à temps et de manière tout à fait efficace.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, Guy Maté, Samuel Kachak, sous la supervision de Julien Nyamouini, à la technique héritier Sidiakala et Bob Landou, coordination et présentation Alain Héroumouchinge. Vous nous avez suivis, nous vous disons merci.